La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez La Percée de l'Histoire pour une émission, ma foi, tout à fait inédite puisque cette fois, ce soir, nous n'avons pas d'invité mais nous allons vous présenter eh bien notre projet que nous avons lancé donc tout juste il y a deux jours. Non, hier même, officiellement hier. Vous venez d'entendre des voix avec moi évidemment, il s'agit de l'équipe habituelle. D'abord Salouane, bonsoir Salouane, comment vas-tu?
Bonsoir Simon, comment vas-tu?
Très très bien, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas revenu en studio, ça fait plaisir.
Depuis Campus en fait, ouais.
Depuis Campus en fait,
ça
fait...
On n'était pas dans le
studio. Ah oui, mais il n'y a pas eu d'émission depuis Campus en fait.
Exactement. Également, donc ça fait deux semaines.
Bah trois semaines au studio.
Trois semaines au studio même.
C'est dingue.
C'est incroyable. Et également, Thomas qui est avec nous.
Bonjour.
C'est bien Thomas, il s'appelle toujours Thomas, ça n'a pas changé. Comment tu vas Thomas?
Ça va super, merci beaucoup. La nuit est déjà là, j'en ai ras le...
Non mais c'est vrai que ça sent l'hiver là. Moi j'aime bien. Moi j'adore cette ambiance. On fera un débat parallèle après sur un petit débat parallèle. Également Gauthier, comment tu vas Gauthier?
Très très bien et toi?
Ben ça va très très bien. Prêt en forme les amis, vous êtes chauds?
Ouais.
Excellent. C'est parfait. Ce soir on va parler de la Sarthe. Vous l'avez compris. On va d'abord faire. Donc ce soir il y aura plusieurs chroniques. La première, ce sera une chronique de Thomas sur quelques portraits de femmes en Sarthe justement dans l'histoire. Ensuite ce sera Gauthier qui va vous donner des noms de rues du Mans. Mais vous allez voir, il va en faire l'histoire. Il y a certaines rues dont je ne connaissais pas le nom et vous allez voir qu'elles sont parfois surprenantes. C'est hyper intéressant. Et puis également, Salouane, comment tu vas, Salouane? Je l'ai déjà dit, c'est pas ça, c'est Thomas.
Je quitte la personne.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, parce que tu me regardes pas, Salouane. Regarde-moi, s'il te plaît.
Non, je te regarde pas.
Bon, très bien. Alors, Salouane, il fera une chronique, lui, sur le roi fou.
C'est ça, Charles VII.
Charles VII, qui est allé dans la forêt des bois de Changé, c'est ça?
Hein? Charles VI.
Charles VI, dans les bois de Changé. Bon, ça sent bon cette chronique.
Non, Charles VI.
Oui, Charles VI, très bien. Et on va et ensuite, évidemment, c'est aussi le thème de cette émission, ce soir, c'est vous parler. Oui, on est un peu fatigué parce qu'on enchaîne pas mal de trucs. Ce soir, l'émission, on va parler de notre projet justement qui est très prenant et qui est hyper fort. Et donc, on espère que ça va vous plaire. On va vous en parler dans quelques instants. On va commencer tout de suite avec toi, Thomas, pour parler donc des portraits de femmes en Sarthe. Thomas, on t'écoute.
Et oui, tout à fait. Quelques femmes vivent en Sarthe. Figurez-vous, et aujourd'hui cette chronique leur est dédiée à toutes les Sartoises de Sarthe. Bonjour à vous.
Quête le micro, quête.
Je sens que cette émission
c'est ma chronique. C'est ma chronique, alors je voudrais un silence.
Pardon.
De cathédrale.
Très bien.
Alors déjà pour commencer, ça va pas être très plaisant puisqu'on va parler d'une meurtrière pour commencer, et on va parler d'Henriette Caillot. Alors, cette dame est née en 1874 et elle est morte en 1943 à Mamers. Nous sommes le 16 mars 1914. Des coups de feu retentissent, un homme tombe. Henriette rentre dans l'histoire à tout jamais. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien d'abord, pour dire que son mari, c'est Joseph Cailleux. Alors, est-ce que vous savez qui est Joseph Cailleux, messieurs?
Caillot.
Si je dis pas de bêtises, c'est avant la Première Guerre mondiale. Et il avait pas une histoire de traité de... Il voulait la paix ou je sais pas quoi, et il était ministre, et en fait on l'a traité de lâche et dans la presse. Et du coup, sa femme a essayé de tuer le directeur d'un des journaux.
C'est presque ça. Alors oui, tu as raison, il est député de la Sarthe, ministre des Finances... sous le gouvernement d'Oumergue. Donc, à partir de ce moment-là, il est cité parmi les possibles prochains présidents du Conseil, ce qui ferait de lui le premier président du Conseil étant député sartois à la base, ce qui est quand même pas trop mal. Mais on va voir que, bien évidemment, les circonstances ont fait que. Et oui, tu as raison, il est partisan de la paix. Parce que, figurez-vous, si vous viviez dans une grotte, qu'en 1914, ça chauffe, on va dire. Ça chauffe un petit peu partout en Europe. Et on sent bien qu'une petite guerre, ça va peut-être éclater d'un jour ou l'autre. Mais notre Joseph, lui, il est plutôt partisan de la paix. Non, arrêtons tout ça, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Donc, dans ce contexte tendu, Le Figaro se procure auprès de la première femme de celui-ci des correspondances entre lui et Henriette avant qu'ils soient mari et femme en 1911. Donc, c'est-à-dire une correspondance extra-conjugale. Mmh. Ce qui fait un véritable scandale. C'est comme si Mediapart voulait balancer un dossier sur vous, ça fait mal. Sauf que là, ce journal, eh ben, c'est le Figaro, figurez-vous, qui publie donc une série de correspondances entre Joseph Caillot, et Henriette. Donc là, Henriette, elle n'est pas contente. Donc, elle ne se démonte pas. Elle va à Paris, au siège du Figaro. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tue Gaston Calmette, qui est directeur du journal, carrément. Et elle le tue le 16 mars 1914.
Donc, l'affaire est réglée.
Voilà. Donc Joseph, lui, bon, bah, il se retrouve un peu dans la mouise. Parce que non seulement
c'est double,
on a les correspondances.
Double problème.
Ont, voilà. Donc un scandale d'adultère, hein, presque. Et puis, bah, sa femme vient de désinguer un mec, quoi. Donc,
et puis, n'importe qui, en plus.
Ouais, hein. En plus, oui.
Donc, la politique, au revoir, puisque le soir même, Joseph décide de démissionner de toutes ses fonctions. 4 mois après, bien évidemment, notre petite Henriette comparaît devant la cour d'assises de Paris. Et son avocat, pas bête. À votre avis, comment va se dérouler le procès, à votre avis ? Est-ce que elle va avoir une peine de prison ? Réponse A, une peine de prison assez modérée. Réponse B, peine de mort. Réponse C, travaux forcés. Réponse D, acquitté.
Réponse D, acquitté.
Ah, je pense que tu as dit que son avocat n'est pas si bête. Donc, après, je pense qu'au départ, ils ont dit condamnation à mort, peut-être.
Et la Troisième République
Et je pense que... Non, c'était quoi le premier ?
Peine allégée.
Allégée, peine moi légère. Je dis que c'est allégée, ouais.
Moi je dis peine de mort.
Peine de mort.
Ah oui,
eh bien, c'est Salouane qui a raison. Ouais. Elle sera acquittée, mais l'avocat plaide, attention messieurs, le crime passionnel et l'irresponsabilité féminine.
Ah oui, d'accord.
Alors ça, c'est pas mal. Moi, j'ai un peu rigolé. L'irresponsabilité féminine, et là, bien sûr, le 28 juillet 1914, elle est acquittée. Alors, le même jour, à Sarajevo, des coups de feu retentiront aussi. Oui. Et c'est pour tuer quelqu'un.
Mais pas la même conséquence.
Voilà, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, bien sûr. Et 2 jours après, le grand et le regretté Jean Jaurès, qui lui aussi est assassiné.
Eh oui.
C'est une semaine
la belle époque.
Chargée. La belle époque, qui termine donc à partir de ce moment-là. Voilà. Alors, pour passer à autre chose, nous, bien évidemment... Je vais encore parler de femmes, évidemment. Mais cette fois-ci, c'est 2 sœurs qui s'appellent Christine et Léa Papin.
Et dont, d'ailleurs, vous avez pu... Enfin, il y a un livre sorti il n'y a pas si longtemps dont l'autrice était présente à Faites Lire.
Tout à fait. Et les sœurs Papin se sont rendues célèbres, j'ai envie de dire, pour avoir assassiné la patronne et sa fille. Mais bien comme il faut, c'est-à-dire qu'elles se sont acharnées sur leur cadavre, un truc, non mais bon. Je n'ai pas la description de l'état des corps, mais apparemment c'était violent, violent, violent. Alors tout ça se passe en 1933, encore une fois dans un contexte très paisible, bien sûr, le 2 février pour être précis. Et donc, bien évidemment, toute la presse nationale se rue au Mans pour savoir mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces 2 sœurs ont assassiné leur patronne et leur fille ? On dit même qu'ils auraient appelé Monk sur la scène de crime. Mais malheureusement, ben, on ne sait pas pourquoi et elles ont fait ça. Et encore aujourd'hui, c'est une grande énigme du XXe siècle.
Et j'ai retrouvé le nom, c'était évidemment Julia Minkowski, donc qui a fait un livre sur l'avocate, justement, des sœurs Papin.
Eh bien, très belle transition, parce que, bien évidemment, elles ont été représentées par une avocate qui s'appelle Germaine Brière, enfin, qui s'appelait plutôt, Germaine Brière, qui réclame des compléments d'expertise psychiatrique durant le procès. Alors, Christine Papin, elle est condamnée à avoir la tête tranchée en place publique au Mans.
Ah
et
oui.
Léa, 10 ans de travaux forcés. Mais finalement, le président du tribunal allège leur peine à la peine de mort en travaux forcés à perpétuité. Voilà, petite réduction
oui,
de peine.
Ça, c'est...
Bien sûr, c'est ironique. Autour de la table, là, vous préférez
mourir
la tête tranchée ou mourir dans les travaux forcés?
La tête tranchée,
c'est direct.
Les travaux forcés, moi j'aime bien.
Ah bon, ah bah... ouais.
Mais Germaine Brière, je sais pas si tu vas en parler.
Non.
Mais qui est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la première avocate sartoise. Voilà.
Eh ben, c'est peut-être vrai. C'est une information qu'on ne vérifiera pas. Mais on te croira sur parole. Donc voilà, les deux sont condamnés à la peine de mort, à travaux forcés, à perpétuité. Et les deux sœurs sont transférées à la prison de Rennes. Alors bon, comme je vous l'ai dit, on ne sait toujours pas pourquoi elles ont fait ça. Donc Christine présente des signes de trouble mental dès mai 1934. Elle est internée d'ailleurs à l'hôpital psychiatrique de Rennes. Refusant de s'alimenter, elle se laisse dépérir en répétant « Je ne mérite pas de vivre ». La bonne ambiance. Et elle meurt en 37. Par contre, sa sœur, qui est interdite de séjour dans la Sarthe quand même, elle devient couturière à Nantes, où elle s'éteint en 2001, alors qu'elle est née en 1911.
Ouais, donc c'est... Ouais.
Sans avoir livré la clé du crime, bien sûr. Donc, on ne saura jamais. Voilà, dommage. Pour clore cette petite chronique sur les femmes de Sarthe, il y en a une non moins... Enfin, qui est assez exceptionnel, j'ai envie de dire. Je reprends la page parce que j'ai dans les mains un célèbre et un grand ouvrage
dont on vous donnera, où tu peux donner les références et qu'on incite à lire.
Que je donne les références immédiatement. Ça s'appelle « Femmes en Sarthe, actrices de leur temps », écrit par Sylvie Granger et Serge Bertin aux éditions Libra Diffusio, que vous retrouverez certainement un jour à la médiathèque Aragon.
Et oui, quand on le rendra.
Quand on le rendra.
Si on le rend.
Si on le rend.
Non, c'est un très bon ouvrage.
Si on le rendra, promis. Je veux parler, bien sûr, pour conclure cette chronique, de Nefertari, parce que nous avons la chance exceptionnelle d'avoir au musée de Tessé, dans la galerie égyptienne, une reine d'Égypte, qui est la grande épouse, j'ai envie de dire, c'est son titre, grande épouse royale de Ramsès II. Donc, Nefertari, lorsque les archéologues se sont penchés à son sujet, eh bien, on ne sait pas d'où elle vient. Ses origines familiales sont assez floues et on pense qu'elle est issue d'une certaine famille noble thébaine, donc la cité de Thèbes en Égypte, bien sûr. Et certains lui croient des liens avec le pharaon Aï, qui succéda à Toutankhamon. Donc Ramsès II l'a épousée quelques années avant son accession au trône, en -1279. Et elle reçoit alors ses titres officiels, maîtresse du double pays, souveraine du sud et du nord, reine de tous les pays. Rien que ça, ça claque. Et elle était déjà mère du premier-né de sa majesté. Rien que ça aussi. Et si vous voulez lui taper la discute, eh ben, vous pouvez la retrouver, enfin sa momie en tout cas, au musée de Tessé, au Mans.
Pareil, galerie égyptienne qu'on conseille vraiment d'aller voir, parce que c'est une grande chance.
Salouane, tu l'avais visité cette
petite galerie? Oui, incroyable, ça reste le meilleur endroit à visiter au Mans.
Ah oui, à ce point-là.
Moi, c'est le coup de cœur absolu.
Parce qu'on pourrait, on pourrait se dire que, bon, on n'a pas trop d'histoire égyptienne au Mans, mais...
Ah si, si, c'est carrément la reconstitution de son tombeau, avec toutes les peintures, les hiéroglyphes, les cartouches, il y a sa momie. Elle a une histoire incroyable, femme de Ramsès II, quand tu connais Ramsès II, le gars, il a 90 ans, et un règne des batailles, voilà quoi, donc... Non, la partie égyptienne du musée de Tessé, c'est chef-d'œuvre.
Eh ben merci beaucoup Thomas, en tout cas pour cette chronique donc sur les femmes en Sarthe. On va pouvoir marquer une pause musicale en s'écoutant une musique d'ailleurs que tu as choisie. J'avais oublié à quel point c'était compliqué de parler anglais. Silent Circle.
Ça, c'est le monsieur.
T'es pas parti un mois à l'étranger
Oui, bah, c'est pas pour autant j'ai appris. Mais Touch in the Night, ça va.
Ah.
Ça, je sais le lire. Donc, vous l'avez compris, Touch in the Night de Silent Circle. Et on se retrouve juste après pour la chronique de Gauthier sur les rues du Mans. Et vous allez voir, il y a des sacrées rues au Mans dont on ne connaît pas toujours l'existence. We'll be right back.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans, ou radioalpa.com, et vous écoutez toujours La percée de l'histoire pour son émission spéciale Histoire en Sarthe, finalement, on va l'appeler comme ça.
C'est, et c'est un peu ça. C'est histoire locale.
Quoi. Histoire locale, et d'ailleurs, on va vous présenter, on le rappelle, notre projet dans quelques instants. Mais d'abord, mesdames et messieurs, l'histoire un petit peu du Mans, et surtout de ses rues, puisque vous allez le voir, beaucoup de rues au Mans, et finalement, on n'en connaît pas toujours l'histoire, donc ça va être l'occasion.
Il y a beaucoup de rues au Mans, oui. C'est vrai que c'était un commentaire très pertinent.
Ben non, mais beaucoup de rues, et finalement, dont on ne connaît pas
l'origine. Beaucoup de noms de rues.
Oui, de noms de rues dont on ne connaît pas forcément l'histoire, et donc ça va être intéressant. Et puis certaines dont on ne connaît même pas l'existence, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Déjà, pourquoi donner des noms aux rues ? Est-ce que vous savez ?
Eh bien, Gauthier va tout nous dire.
C'est pour se repérer, j'imagine.
Ouais. Bah, pour la poste,
non. Non, mais chaque rue a son histoire.
C'était pour la poste, je crois qu'il a raison.
Parce qu'aux États-Unis, genre, c'est des numéros, tu vois, la 150e, la 15e, etc.
Oui, mais ça a des noms de rues quand même.
Oui. Mais du coup, nous, on a préféré donner des noms de personnages, de lieux, de...
Ah, dans ce sens-là, genre 5e avenue, ok, je vois ce que tu veux dire, oui.
Bah, aux États-Unis, c'est des numéros, au final.
Ils sont bêtes, voilà.
Non, mais pourquoi ?
Gauthier, en tout cas...
Ils sont fous, Eric, hein.
On t'écoute.
Ils sont malades.
Alors, plusieurs... Donc, on va parler de pas mal de petites rues. Alors, je vais pas faire un énoncé de toutes les rues du Mans, mais quelques points, notamment du Quai Louis Blanc, des Jacobins, ou encore une petite anecdote sur une rue assez drôle. Donc pour commencer, à la demande donc de M. Boutier en 1883, le conseil municipal fait la proposition suivante. Il faut donner le nom de Louis Blanc à une rue de la ville. Le grand historien de la Révolution a droit à tous les hommages des Républicains. L'architecte paysagiste Dupuis avait créé, donc, à l'époque de la construction du quai, un square au bord de la Sarthe où des vestiges de remparts médiévaux demeurent encore visibles de nos jours. Passer le pont Issoire, et au bout du quai filant vers Coulaines, donc juste à côté du Mans, subsiste à droite une grande maison desservie qui est appelée la rue Jacques Tahureau. Cette rue Jacques Tahureau est baptisée le 6 octobre 1908 et est communiquée avec l'ancienne fabrique de carton construite quelques années auparavant, en 1897, sur les assises des moulins de Saint-Gervais, où, je cite, où l'on mangeait du blé, où on moulageait du blé, pardon, le plâtre et battait le chanvre et les grains. C'est revendu en 1939 à la famille Trassard et la fabrique ferme malheureusement ses portes au début des années 1960, au grand regret des gamins du quartier qui se constituaient à bon prix. L'amorce d'une collection de timbres notamment prélevés dans l'amoncellement de vieux papiers. Interdite à la circulation depuis 1958, une partie du quai formant passerelle entre la Sarthe et le bras de la rivière alimentant le moulin, s'effondra un matin de juin 1964. De longues années s'écoulèrent avant que l'ancien moulin ne soit démoli, puis le quai qui soit reconstruit. À ce stade de notre cheminement, nous avons poursuivi vers les abords de Coulaines, comme évoqué auparavant, jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque donc l'école normale de jeunes filles, qui était construite en 1882, donc à la fin du 19e siècle, qui est devenue l'Institut universitaire de formation des maîtres, jusqu'en 2009. Et donc voilà, ça a été mis fin à la fin des années 2000. Le quartier donc de Bangean, donc plutôt du côté du Nord-Sarthe, donc au nord du Mans, pardon, donc était autrefois planté de vignes, puis de pommes à cidre, fut progressivement bâti. Le relief tourmenté de Bellevue, donc un petit peu plus au sud, n'a pas arrêté les promoteurs qui ont régi des collectifs, rompant notamment le charme avec une campagne plutôt proche. Des années 1975 à 1970 revêtent d'une ampleur considérable, compte tenu de l'importance du phénomène de construction. En effet, si l'on peut parler d'explosion au Mans, c'est bien à partir des années 1960, où les opérations de grande envergure, à l'image de la ZUP, donc Coulaines-Bellevue, prennent une allure vertigineuse. Des voies nouvelles se sont vues attribuer des noms de villes, de pays ou d'auteurs, tandis que les plus anciennes conservaient leur nom d'origine. C'est ce mélange de genres et des époques qui fait l'originalité d'un grand quartier. Le Mans ne pouvant pas toutefois être comparé à la Défense.
Ah bon ?
Des constructions individuelles ont, ici et là, adouci le paysage et préservé un petit peu de ruralité qui fait certainement le charme de la ville. Parlons désormais des Jacobins. Donc vraiment dans l'hypercentre.
Oui, la place des Jacobins, c'est vrai que...
Oui, intéressant ça. Pourquoi donner ce nom ?
Pourquoi la place des Jacobins, tiens ?
Eh bien, figurez-vous que le quadrilatère formé par l'avenue de Paderborn, le boulevard du Général de Négrier, prolongé par la rue de Flore jusqu'à la rue Albert-Ménian, j'espère que je ne vous ai pas perdu, pour se renfermer par la place Lionel-le-Couteux à la rue du 33e mobile.
Bien sûr.
Et la rue du 33e mobile, vous voyez tous évidemment. Où on est, enserre la place et la promenade des Jacobins et les rues du bas de Prémartine. Cet ensemble regroupant 27 allées, avenues, boulevards, jardins, places, promenades et rues,
au moins tout ça,
concerne un quartier entièrement édifié au 19e siècle. En effet, jusqu'à la Révolution, les terrains ne sont occupés que par des cultures et parcourus de chemins qui mènent aux fermes de Prémartine, comme on l'a vu juste avant, notamment du côté de Bangean, où c'était vraiment une vraie campagne. Et donc aux fermes de Prémartine, de Sinaux, l'Éventrail, Maupertuis, la Mariette, et plus loin vers tout ce qui est l'Ormeau, Malpalu, la Motte, la Butte, Monterre, etc. Ces noms ne nous sont pas inconnus car l'urbanisation tentaculaire les a gardés en mémoire. Avant de nous attarder sur chacune de ces voies, il convient toutefois de reprendre notre cheminement à partir de la place des Jacobins et de restituer un petit peu son histoire à travers les siècles. Et ça commence au XIIIe siècle.
Ah oui.
L'ordre des Cordeliers fut établi en 1209. Geoffroy de Laval, doyen du chapitre de la cathédrale, décide de leur admission, mais ce n'est qu'en 1231 que ceux que l'on nomme aussi donc les Franciscains, plus connus sous ce nom-là, fondent un couvent sur un terrain donné par la reine Bérengère.
La fameuse.
Eh oui. L'enclos occupait la partie nord-est actuelle de la promenade des Jacobins jusqu'aux rues des Gladiateurs et Robert Garnier. Le couvent et l'église étaient bâtis sur le bord de l'allée supérieure de l'avenue de Paderborn, en face des rues Robert Triget et Montesquieu, que certains ici connaissent bien.
Tout à fait.
C'est pour ceux qui sont passés au lycée Montesquieu notamment.
Dédicace. J'en ai pas fini d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que...
J'en dirai pas plus.
Le master meuf.
Ouais.
Donc les religieux de l'ordre de Saint-Dominique, ou frères prêcheurs, connus sous le nom de Jacobins, sont appelés au Mans en 1230 par Jean de Troesme, excusez-moi de la prononciation, qui était un seigneur anglais. Il leur est attribué quelques maisons et la chapelle Notre-Dame-des-Marais, dont le nom rappelle que le maire de Raux traverse des terrains marécageux. Afin de rendre ces lieux faits de douves et fossés plus accessibles, les terrains sont asséchés et assainis.
Et ça a dû être un sacré chantier, ça.
Ouais, tu m'étonnes.
Le couvent des Jacobins sera complètement détruit lors de la guerre de Cent Ans, donc on rappelle 1337-1453, et il est finalement reconstruit quelques années plus tard, en 1477, aux frais du manceau Pierre de Coutardy. Situé paroisse du Grand Saint-Pierre, son entrée principale s'ouvrait sur la rue Claude Blondeau, qui était l'ancienne rue Saint-Dominique. L'église se trouvait sur la place, à hauteur de l'hôtel Juteau qui la dominait, et l'enclos occupait tout l'emplacement de l'ancien marché aux bœufs, longeait le couvent des Cordeliers pour finir au carrefour du Crucifix, qui est en la place Lionel-le-Couteux, Banque de France. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la Banque de France, avant le Jacobin. En 1640, les échevins décident de faire combler le fossé devant les remparts, mettant à niveau un espace allant du square du tunnel à la place du jet d'eau actuel. Alain Lorgoux, dans son ouvrage Le Mans regarde sur la ville, indique d'ailleurs que c'est la première fois que l'on peut attribuer à un espace le nom de place des Jacobins. Mais c'est en 1687 que remonte sa création définitive. Cette année-là, les autorités municipales projettent de transférer le marché de la place Saint-Pierre vers l'extérieur des fossés, donc qui se situe après entre les ponts neufs, les Jacobins et les Filles-Dieu.
Donc depuis 1687, c'est la place des Jacobins.
C'est ça. Ça remonte un petit peu plus tôt, mais la tournure officielle, c'est 1687. L'une des plus grandes places, enfin les plus célèbres en tout cas, place du Mans. Donc les magistrats du présidial lèvent l'audience et prennent la fuite le 30 juin 1714, tant ils sont incommodés par les odeurs des latines creusées sous les fenêtres de la chambre du conseil, la même où nos élus d'aujourd'hui décident du devenir de notre ville. Des odeurs qui étaient permanentes au Moyen-Âge et qui sont un petit peu perduré par la suite. Il faut attendre peut-être le 19e siècle pour avoir vraiment des rues, notamment avec les boulevards haussmanniens à Paris, pour avoir des rues à peu près propres, hein, qui sentent correctes. Parlons désormais d'une petite anecdote dont je vous parlais au tout début de la chronique, une rue qui a un nom un petit peu particulier, pour le moins. Elle est toute petite rue, donc minuscule par sa longueur, la rue qui est nommée la rue de Haha, citée en 1770,
je la connaissais même pas,
devenue rue d'Aha. C'est toujours AH, plus loin AH, donc qui relie en fait le quai Ledru-Rollin à la rue du Chêne Vert. Selon Paul Cordonnier, on attribuait ce nom dans le passé à la proximité d'une étendue d'eau. Jadis, écrivit Victor Boitard, avant la construction du pont Gambetta, la rue de Haha, c'est très très drôle à dire, effectue un crochet particulièrement dangereux, mais son dessin a changé en 2 siècles. Quant au Ha ou au Ha, heureusement qu'il n'existe que 2 possibilités d'écriture.
Franchement, je ne savais même pas que c'était possible de donner. Et comment tu fais pour dire où tu habites?
Tu rigoles.
Non mais genre je pense que tu peux pas être crédible si tu reçois un colis par exemple, tu commandes un truc, vous habitez 12 rue Haha. C'est pas possible.
T'es pas prêt au sérieux.
Ouais, c'est vrai. Mais d'accord, bah c'est
je pense qu'il y a pire comme nom de rue quand même.
Ah ouais, vas-y, on t'écoute.
Non mais je pense que c'est une
Ah oui, OK.
Là quoi.
Et du coup, on va s'écouter Haha Take On Me. Non, je rigole, c'est faux.
Ça aurait été drôle.
Bah en vrai, je voulais, mais bon, j'ai pas eu.
Ah, tu y as pensé?
Ouais, j'y ai pensé. Bah la preuve, j'ai fait la blague.
Bah oui, bravo. Bah non, mais bravo.
Tu vois, on fait de l'humour ici. Merci beaucoup Gauthier pour cette petite chronique donc sur quelques rues du Mans, dont j'espère vous avez appris pas mal de choses, et notamment l'existence de cette rue Haha, qui est où déjà à peu près?
Alors, elle se situe, en fait, ça relie le quai Ledru-Rollin à la rue du Chêne Vert. Si les gens veulent, veulent se rendre à la rue Haha,
on prendra une petite photo. Tous à la rue, haha, c'est parti. Merci beaucoup Gauthier, on va donc s'écouter Fizz and the Tantrums, The Walker, bien sûr, une musique très connue. Et on se retrouve juste après pour la chronique, cette fois-ci, du roi Charles VI, faite par Salouane. Et puis on va parler du projet, évidemment, on terminera par ça. A tout de suite avec The Walker, Fizz and the Tantrums. Keep trying.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, ou radioalpa.com d'ailleurs, puisqu'on le redit jamais assez, mais vous pouvez aussi nous écouter, puisque beaucoup, vous m'avez dit, vous me disiez, certains d'entre vous, que vous ne pouviez pas écouter Radio Alpa, et bien en effet, si, vous pouvez le faire, mais sur radioalpa.com aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, on est toujours donc dans la percée de l'histoire, on va cette fois-ci donner la parole à Salouane pour une chronique donc sur le roi Charles VI, le roi fou, comme on l'appelait. Salouane, c'est ton moment.
Avant, juste Gauthier qui veut rappeler la référence du livre.
Exact. Je donne la référence du livre pour laquelle je me suis bien aidé pour ma chronique. Ça s'appelle tout simplement Le Mans, le nom des rues raconte l'histoire. Voilà.
Le Mans, conseil
le
aussi.
Nom des rues raconte l'histoire, de Ghislaine et Gérard Blanchard, Jean-Pierre de La Perelle et Daniel Levoyer aux éditions. Je n'ai pas l'édition. ITF éditeur.
Et d'ailleurs, qui est disponible en tout cas, lui aussi, à la médiathèque du Monde. Donc n'hésitez pas aussi, une fois qu'on l'aura rendu, à l'emprunter.
Merci la médiathèque du Monde de nous l'avoir donné.
Voilà, tout à fait. Gratuit.
Évidemment.
Salouane, on t'écoute.
Oui, alors nous, on va aujourd'hui parler de Charles VI, ce roi de France. Alors, Charles VI, donc le bien-aimé, ou plus tard, il sera renommé le fol ou le fou, qui est roi de France de 1368 à 1422, donc en pleine guerre de 100 ans. Alors il va passer ses 12 premières années de règne à vraiment... parce qu'on est en pleine guerre de 100 ans, donc il récupère un royaume, c'est un bazar monstre. Alors il commence à parfaire la guerre avec ses oncles, etc. Il va restructurer le royaume, vraiment. L'homme parfait, l'homme qu'on attendait, l'homme providentiel pour le royaume de France. Et il va faire ça pendant 12 ans. Ce qui va lui apporter le surnom du bien-aimé. Jusqu'en 1392, c'est là que les problèmes commencent. Il va tomber malade. Et on a le chroniqueur Froissart, pardon, qui nous raconte que en fait cette maladie-là, il va rester un mois à Amiens. Et pendant ce mois-là, en fait, c'est vraiment des fièvres, des grosses crises de fièvre. Il va perdre ses cheveux, il va perdre ses ongles.
Ah oui, c'est
carrément.
Des grosses fièvres.
Il va carrément perdre ses ongles. Hein, faut imaginer. C'est
il n'avait pas pris de l'épargne.
Voilà. C'est dégueulasse. Il va perdre ses ongles, il va perdre ses cheveux, des grosses crises de fièvre. Il dort pas, des grosses crises d'insomnie, etc., etc. Et pendant cette maladie-là, où à la toute fin, il commence à peine à s'en remettre. En fait, son plus proche conseiller, il va se faire. Il y aura une tentative d'assassinat par la famille des ducs de Bretagne, et donc ça va encore recréer des nouveaux bazars, etc. Donc il y a quelques bisbilles entre la couronne, les partisans de la couronne et la Bretagne. Donc le roi, il se dit, bon bah, malade ou pas, on va aller faire la guerre. Donc il part avec son armée, et donc en août 1392, il va sortir de la cathédrale du Mans, et il va rejoindre du coup la bataille. Et en fait, sur la route pour aller à la bataille, il passe par la forêt du Mans. Et donc, dans cette forêt du Mans, je le rappelle, on est au mois d'août, forte chaleur. Charles VI, il est à cheval, donc il va à la guerre, il est en armure. Par-dessus l'armure, il a un surcoup, donc c'est une sorte de robe qu'on met sur l'armure en laine. La sienne est en velours noir, et il a aussi des chaussures noires, donc en été. Et il a la tête couverte avec un chaperon.
Et donc,
donc il est bien ouais. Comme il faut, quoi. Il est bien couvert, et donc il marche devant son armée et tout, il a sa... son frère derrière lui et ses généraux, etc. Et là, sur la route, dans la forêt, il y a un vieux qui il spawn, littéralement. C'est il arrête le cheval du roi, il prend la bride du cheval et il lui fait arrête-toi, noble roi, tu es trahi.
Oula.
C'est ok. Donc le convoi s'arrête, il dégage la personne, il la tabasse un petit peu quand même parce que tu
ouais,
touches le
même.
Roi, quoi. Donc. Il y a cet événement-là qui passe et l'armée continue sa marche. Donc toujours dans cette forêt-là, on rappelle, mois d'août, il fait chaud, le roi il est bien habillé, il a plusieurs couches. Et en fait derrière lui, il y a son porteur d'armes qui est aussi à cheval et donc qui va s'endormir à cheval. Et il va s'endormir et il va faire tomber l'arme, une arme d'aste, donc une grande arme avec un bâton et avec une lame... ça peut être une lance ou une vouge par exemple, il va la faire tomber. Et en la faisant tomber, ça va faire un bruit immense, ça va réveiller toute l'armée. Et en fait, à ce moment-là, Charles VI, il va péter un câble, il va sortir son épée, Et il va repenser à ce que le vieux lui avait dit quand il l'a surpris, ouais. Et il va lancer des sus aux traîtres, ils veulent me tuer, etc. Il donne des grands coups d'épée dans son armée, et il va toucher son frère, qui réussit quand même à se libérer, entre guillemets, qui réussit à fuir. Et en fait, bah, c'est la première crise de folie de ce roi-là, à partir de ce moment-là, donc à partir de 1392 jusqu'en 422, c'est la descente aux enfers, le royaume, il arrive dans un état, c'est... Alors on a, donc ça c'est la première crise, ensuite la suivante, l'année d'après, 1393, il y a le fameux bal des Ardents. En fait, la reine de France, Isabeau de Bavière, avait une amie, du coup aujourd'hui allemand, et en fait elle a un mariage, et du coup le roi va organiser une fête, et en fait ils vont se déguiser avec de la toupe et de la paille. Et bon, bah, la toupe et la paille, t'approches ça du feu, ça part dans des délires, c'est des torches humaines. Et en fait, le roi, il est à deux doigts de mourir, brûlé. Ça, c'est la prochaine. Ensuite, la plus connue, je pense, des crises, c'est... il va se prendre pour du verre. En fait, il veut pas qu'on le touche, il va arrêter de marcher, il va arrêter de monter à cheval.
Ah oui, c'est que là, il est bien. Là.
Il va arrêter de... là, c'est vraiment, c'est, il se prend pour du verre. Il se balade dans un petit palanquin, rembourré, un peu comme une camisole. Pas une camisole, mais comment on appelle les espèces de cellules là, dans les hôpitaux psychiatriques avec les matelas sur les murs? Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, d'accord.
Les matelas sur les murs.
C'est rembourré. Non, dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, tu sais, les cellules, c'est matelassé.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu peux pas te taper contre le mur. Donc bah, là, c'est la même chose, mais dans un petit palanquin. Donc il se balade que comme ça. Genre personne ne le touche. Lui, il ne touche personne. Il ne marche plus, il ne fait plus rien. Il est assis sur son trône, il ne bouge pas. Et quand un conseiller arrive, il ne peut pas le toucher. Non, ne me touchez pas, machin. Vraiment la plus grosse crise. Et en fait, aujourd'hui encore, on ne sait pas quelle maladie il avait. Ça, c'est un des plus grands.
On me dit
mystères.
Dans l'oreillette, c'est Alex qui dit capitonne.
Capitonné. C'est peut-être ça.
Il est capitonné dans.
Exactement. Ouais. Et en fait, du coup, aujourd'hui, on ne sait pas quelle maladie il avait. Qu'est-ce que pendant 12 ans, c'est vraiment l'homme providentiel. Il remet le royaume sur les rails. Il fait tout ce qu'il faut faire, etc. Un été. Un fou qui débarque sur la route, qui pète un câble. Et après, c'est vraiment sa vie. Il y a rien qui va. Et on comprend pas. On ne sait pas. Est-ce que il a des crises de violence?
Il y a une maladie aussi. Ouais,
il va battre sa femme, mais dans des conditions. C'est en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est des vraiment.
Ah bon
non, mais c'est
bizarre la transition.
Dans le
là.
Sens, oui, c'est faux. Ah, c'est pas bien dit, mais,
non, mais oui.
C'est des crises. Genre, il y a
c'est
un moment.
Quoi.
Il y a genre le lundi, il va battre sa femme, mais comme un fou furieux, vraiment, il va à deux doigts de la tuer. Et le mardi, ah, c'est l'amour de ma vie, tout va bien, des roses partout. C'est vraiment bizarre. Et on ne sait pas aujourd'hui si c'était de la schizophrénie, si c'était, il était bipolaire, on ne sait toujours pas. Et ça me permet de faire une transition avec un médecin légiste.
Ouais.
Médecin légiste et historien des maladies, en fait. Lui, il a fait...
Oui, pour analyser...
Il a travaillé sur... pas sur Charles VII, pas encore Charles VI, pardon. Ouais. Il n'a pas encore travaillé sur Charles VI, mais il a travaillé sur Marat et Robespierre. Et en fait, il associe histoire, donc c'est ce qu'il va trouver dans les archives, et la science pure. Et en fait, il a fait ça avec Jean-Paul Marat. Il en est venu à la conclusion qu'en fait, il avait des problèmes de... Ses problèmes de peau, c'est dû à des champignons, et qu'en fait, c'est parce qu'il prenait des bains de soufre. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, Marat prenait des bains de soufre pour soulager ses démangeaisons, sauf que c'est à cause de ces bains de soufre, ça lui a apporté des bactéries qui ont en plus des champignons, et ça allait le tuer dans tous les cas. Donc, il a vraiment fait un carnet de santé de Marat. Robespierre, c'était un peu plus compliqué, parce que les preuves qu'il avait, il a notamment étudié le bureau Louis XV, sur lequel ils ont allongé Robespierre quand... je sais pas s'il a voulu suicider ou on lui a tiré dessus à l'hôtel de ville où il s'est brisé la mâchoire. Donc il a essayé de repérer s'il y avait du sang dessus et tout. Mais vraiment un travail de fou furieux. Donc il a pu refaire.
Ah, ça doit être hyper chaud de retracer.
Le carnet de santé de Marat. Il a utilisé les dernières pages au moment de son assassinat par Charlotte. Charlotte Corday, c'est ça. Genre, Et donc au moment de son assassinat, elle va planter un seul coup de couteau. Avec une lame de 25 cm, et le premier coup est fatal, elle retire la lame, donc il y a du sang qui jaillit, le sang jaillit sur les pages qu'il était en train d'écrire. Et en fait, ces pages-là, elles sont consultables à la BNF, avec le sang de Marat dessus. Donc il a été faire un prélèvement, et c'est bien son sang, etc. On a retrouvé son ADN, et grâce au sang, ils ont pu retrouver de quelle maladie il était atteint, et ils ont étudié aussi sa baignoire, qui, elle, au musée où il y a les statues de cire, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Grévin. Grévin.
Au musée Grévin, c'est la vraie baignoire. Donc il a étudié les dépôts qu'il y avait pour savoir que c'était bien une solution d'eau et de soufre, etc. pour soulager. Donc il a fait un vrai carnet de santé. Et peut-être qu'un jour il le fera pour le roi fou aussi.
Ouais, ça peut être intéressant, mais c'est. Alors là, par contre, là, le boulot est monstrueux. Boulot, parce que ouais, si tu dois aller chercher.
Bah, c'est ce qu'il disait justement pour Robespierre, c'est qu'aujourd'hui la science, elle nous permet pas de. Pour Marat, il avait assez de.
Ouais, il y a
de...
des sources, quoi.
Il avait assez de stuff, bah, entre guillemets, pour le faire, mais Robespierre, pas encore. C'est vraiment quand il est sur le bureau, il y avait un mélange de sang, il y avait un mélange de café, il y avait de l'encre, il y avait de.
Ouais, y avait
c'est
de
voilà
de
quoi.
Poudre,
donc,
tout ce qu'il faut.
Ouais, ouais, donc il a pas pu vraiment faire le carnet de santé pour Robespierre, mais. Plus tard. Aujourd'hui, la science ne nous permet pas, mais peut-être que d'ici 10 ou 15 ans, on arrivera à faire celui de Robespierre, et pourquoi pas un état psychologique ou psychiatrique du roi fou Charles VI.
Mais ça se développe de plus en plus, ça. Ouais. C'est hyper intéressant. Bah, comme typiquement, alors c'était un peu plus particulier, c'était pas dans le domaine de la santé, mais l'archéoscience, on avait reçu Arthur Langer.
Oui, oui.
On voit qu'il y a des disciplines et des champs qui se rejoignent.
De toute façon, la science et l'histoire, c'est lié.
C'est hyper lié. C'est la science, l'histoire est une science.
L'histoire est une science. Oui,
mais n'oublions jamais.
La science dure et la science humaine sont liées.
Merci beaucoup, ouais. Salouane, pour cette chronique tout à fait intéressante. On va pouvoir conclure. Je vois qu'il est déjà 20h54, sur donc notre projet. Ça y est, on va pouvoir vous en parler un petit peu.
La balade.
Cette phrase est un peu bizarre. Notre projet, ça rappelle...
Ouais. Parce que...
On va devenir comme Charles VI.
Ça va.
Et peut-être, Thomas, puisque je te sens motivé à en parler, est-ce que tu veux... Qu'est-ce que c'est que ce projet, Thomas ?
Mais dis-nous, Thomas.
Donc déjà, nous sommes des enfants dits géniaux.
Donc, qu'est-ce qu'il raconte ?
Comme, qui commence bien.
Comme nous sommes géniaux, on s'est dit, tiens... Si on faisait un projet autour de l'histoire, on fait ouais, bon, d'accord, alors on a réfléchi et tout. Et des points faibles ou des points forts de la radio, ça dépend dans quel côté on situe, c'est que vous l'aurez peut-être remarqué, mais il n'y a pas de vidéo.
Pas encore, ça arrive.
Alors du coup, on s'est dit, tiens, ça serait bien quand même d'aller visiter des éléments de notre patrimoine parce que. Il est riche, notre patrimoine en Sarthe, vraiment, hein, je vous assure. Il y a beaucoup...
Croyez-le.
Oui, croyez-nous. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et on s'est dit, c'est dommage de laisser tout ça en blanc. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un projet pour le valoriser. Et donc, ce projet, c'est la balade au fil de l'histoire. Nous avons pitché notre projet, c'est-à-dire que nous l'avons soutenu devant des jurys, que ce soit à Pépite, Pays de la Loire, donc une organisation... national qui aide les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs comme nous, à développer leurs projets, les structurer, savoir comment les soutenir devant des jurys, etc. Pour finalement aller à Sarthe Tourisme, qui donc est la branche touristique du conseil départemental.
Et parce que c'est un peu par hasard, ils ont renouvelé leur appel à projet dans la campagne. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils se sont dit, allez, est-ce qu'on essaye ?
Ouais. Donc on a postulé, nous sommes passés devant un jury, nous avons soutenu devant ce jury et donc nous avons été les lauréats pour être sponsorisés par Sarthe Tourisme en lien avec KissKissBankBank pour donc créer une campagne de financement participatif sur le site KissKissBankBank. Et donc ça y est, ça a commencé hier.
Ouais.
3 octobre. Et donc, si vous voulez regarder notre projet, savoir plus en détail ce qu'on veut faire et ce qu'on vous demande aussi, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site KissKissBankBank et de chercher la balade au fil de l'histoire.
Et si vous regardez la vidéo, regardez bien jusqu'au bout.
Oui,
c'est ça, la vidéo de présentation.
Alors on vous dit pas tout, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Un projet que vraiment on travaille depuis un bon bout de temps maintenant.
Depuis le mois de mai.
Et puis on espère qu'il va vous plaire. C'est vrai que ça fait c'est depuis hier qu'on est lancé.
Oui,
sur ça officiellement. Oui, officiellement, tout à fait. On est déjà à 13%, 14%.
14%.
On a franchi la barre des 1000 euros là, donc c'est exceptionnel. Mais on a encore beaucoup à aller chercher. Donc
ça, on a un objectif de 8000 euros en 45 jours. Donc
c'est un gros objectif. Mais parce qu'évidemment ça demande des moyens logistiques ce projet, mais si on arrive à le faire, ce sera exceptionnel. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur la page. Oui, vas-y, Hugo.
Non, je rebondis dessus, mais vous le direz certainement le mardi prochain, mais On a également.
Ouh la voix.
C'est l'émotion.
On a créé entre guillemets avec un spécialiste, un graphiste, une affiche.
Oui, une affiche sur le.
Enfin, c'est à côté du pilier rouge, sur la grande rue. Sur le début de la grande rue où on a vu sur le pilier rouge, donc une affiche de nuit qui est très jolie de manière très objective, évidemment. Donc voilà, au-delà de ça, il y a des, comme vous l'avez dit, il y a des contreparties. Je vais pas y arriver. Il y a des contreparties et à 20 euros, vous avez cette affiche qu'on distribuera certainement entre décembre et janvier. On sait pas trop. Et donc voilà, vous pouvez accrocher dans votre salon. Vous pouvez.
On va essayer de la donner à vos amis, format numérique.
Format poster, vraiment allez sur la page, oui. Même s'il n'y a pas une contribution financière de votre part, au moins partagez le projet, renseignez-vous, lisez vraiment le descriptif.
Mais cette affiche en plus, elle est exclusive, inédite, unique, ouais. Elle a été faite sur mesure et vous l'aurez donc en format numérique.
Et ce
format
n'est
papier.
Qu'ici que vous l'aurez, oui. Messieurs.
Exactement. Comblez un petit peu encore pour expliquer le temps que je mette une musique.
Parce que votre histoire compte, nous comptons sur vous.
Oui, hein, parce qu'en fait, tout l'intérêt, c'est quand vous contribuez à notre projet, vous recevez ce qu'on appelle des contreparties. C'est-à-dire qu'il y a des paliers que je vous invite donc à aller voir sur le site, où pour par exemple 20 euros, vous aurez. Donc l'affiche et certains avantages pour la suite. Si vous prenez 35 euros, c'est autre chose. Si vous prenez 60 euros, c'est encore autre chose. Voilà, il y en a pour toutes les bourses.
Il y a aussi les donations libres, donc vous pouvez donner.
Il y a aussi les donations.
Mais c'est vrai que l'avantage de KissKissBankBank, c'est surtout les contreparties. Vous donnez en plus pour le projet et en plus on vous offre un truc. Donc c'est.
À noter que les contreparties seront distribuées à ceux qui nous ont soutenus après la campagne, bien évidemment.
Et uniquement. C'est le point important. C'est-à-dire que si on n'atteint pas les 8000, c'est retour à zéro, voilà, tout le monde est remboursé.
Tout le monde est remboursé et voilà. Par contre, les contreparties n'existent plus.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on compte vraiment sur vous. Merci beaucoup. On va y finir avec une musique qui vous fera peut-être écho d'ailleurs sur la fin de la vidéo. Nous comptons sur vous.
Faut lancer la musique maintenant. Ouais.
Ça part, attention.
On la refait, parce que votre histoire compte. Nous comptons sur vous.
Voilà, on espère vraiment, en tout cas, que ça va vous plaire. On se retrouve mardi prochain. Non, mais
merci.
Ça arrive, c'est
merci
en train
beaucoup.
De. Ça monte en puissance. On se retrouve mardi prochain pour une émission. Ce sera avec qui d'ailleurs?
Oui,
c'est pas Tony Chistres de la OK7. On aura la chance d'avoir Tony Chistres de la OK7, donc qui va vous présenter le bunker Berthelot, à Berthelot qui est visitable du général Dolman. Exceptionnel, merci à vous toutes et tous. Bonne soirée.
À la semaine prochaine. KissKissBankBank, la percée balade au fil de l'histoire. Pardon.
Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Yeah. aujourd'hui nous reviennent, les portes sont closes, les autres sont toujours là, toujours en danger.